Studio mobile, Radio Biwa, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock. But many, many times, a little walk to walk, a hope and a good line. You got a heart, you got a tick, you got a talk, you got a whole life.
Aujourd'hui, 28 avril, une partie de l'équipe de la radio est présente sur la place du marché. L'occasion rêvée de partager avec vous, chers auditeurs, un grand direct où nous palabrerons d'un sujet pour le moins surprenant, la cathédrale de Die. Car on peut se demander, seul, au milieu de tout, comme un pied de nez à la modernité. La cathédrale de Die reste l'unique centre géographique de notre grande mégalopole. Mais alors au fait, comment va-t-elle? Nos envoyés spéciaux se préparent à vous répondre.
Bonjour Erdiwa, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices, c'est Anaël sur les ondes, en direct de la place de la cathédrale dans notre fabuleuse caravane, notre fabuleux studio mobile. Je vous présente notre émission de ce matin qui se déroulera de 10h à 13h, donc en direct. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre sur la place de la cathédrale. L'émission s'articulera autour de trois axes. Pour commencer, nous parlerons de l'histoire de la cathédrale au sein de la ville, de l'histoire de la ville et donc des religions. L'histoire de la place, et nous passerons ensuite à l'actualité de ce monument sur encore cette place de marché, ce lieu central où nous nous retrouvons au minimum tous les samedis matins. L'utilisation de la cathédrale aujourd'hui, c'est une propriété municipale, mais on en fait un usage religieux, pardon. Les associations qui l'utilisent aussi, et puis nous aborderons bien sûr les travaux de restauration qui ont lieu en ce moment sur l'édifice, les travaux de restauration de la charpente. Le bon de souscription publique. Nous parlerons aussi un peu de l'AVAP, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, avec des invités. Et nous finirons avec les perspectives d'avenir, l'importance de la conservation du bâtiment dans une logique de protection du patrimoine et l'explication à propos des fouilles archéologiques.
Merci Anaël. Bienvenue donc à toutes et à tous. On est en direct sur le marché avec un petit peu de retard, hein, on peut quand même le dire, et on s'excuse pour cela. Comme d'habitude, les aléas du direct, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour Jacques Planchon.
Bonjour.
Vous êtes le conservateur du musée de Die.
C'est ça.
Et avec vous, on va entamer cette émission. Alors notamment pour déjà vous un petit peu vous représenter une nouvelle fois, même si vous êtes passé quelques fois aussi sur notre antenne, et puis resituer un petit peu l'action du musée et puis son lien avec cette activité autour de la cathédrale aujourd'hui. Alors commencez donc, présentez-vous un petit peu plus aux auditeurs.
Donc je suis le conservateur du musée de Die, qui est principalement un musée d'archéologie et d'histoire. Archéologie, je suis aussi archéologue de formation et c'est pour ça que j'ai voulu travailler ici. Alors c'est un musée qui présente toute l'histoire récente et très ancienne du Diwa, de l'ensemble du territoire. C'est avant tout un musée de territoire, même s'il est sous gestion municipale. Donc on démarre avec la préhistoire ancienne, le moustérien, c'est-à-dire quelque chose comme 60 à 100 000 ans avant Jésus-Christ, et on recouvre à peu près toutes les grandes périodes préhistoriques et historiques, jusqu'à arriver à la dernière grande période qui a marqué le Diwa, c'est-à-dire la résistance en 1944. Voilà à peu près un aperçu des collections du musée.
Alors vous nous avez dit que vous étiez archéologue, mais en quoi consiste vraiment le travail d'un conservateur et un spécifiant un petit peu à Die particulièrement?
Alors le travail d'un conservateur de musée, c'est de s'occuper d'abord et avant tout de ses collections. Ce sont des objets rares, avec une très grande valeur du point de vue historique. La valeur financière n'a aucune importance pour un conservateur de musée. Ce sont des objets qui racontent une histoire, qui racontent l'histoire du pays, précisément ici. Et donc le premier travail du conservateur, c'est de prendre soin de ces objets, de les conserver dans les meilleures conditions possibles. Et puis évidemment aussi de les connaître le mieux possible, donc de les étudier, de les inventorier, d'essayer d'en tirer le plus d'informations pour justement pouvoir raconter cette histoire du Diwan de la façon la plus détaillée possible.
Alors donc il y a un rôle d'éducation populaire, on va dire, puisqu'il va falloir évidemment présenter ces pièces, et donc un rôle de, on va dire, de partage du patrimoine, de conservation du patrimoine aussi. Et on en vient comme ça tout doucement au monument qui nous entoure et la cathédrale ce matin, puisque c'est ça qui nous intéresse. Ça fait partie aussi du rôle du conservateur du musée que d'avoir un œil particulièrement proche des monuments qui sont là autour de nous.
Alors c'est une des missions annexes, oui, du conservateur, simplement parce que Die est une petite ville et que donc on ne peut pas avoir 3, 4, 5 personnes qui travaillent sur le patrimoine. Donc en plus du musée, évidemment, le conservateur, en général, met son nez dans les affaires de patrimoine municipal en essayant d'avoir de façon locale un suivi, notamment sur la gestion des monuments historiques, puisque la cathédrale est classée comme monument historique, mais aussi le même genre de travail sur le rempart romain, qui lui-même est classé également, et puis sur d'autres éléments du patrimoine qui peuvent être publics ou privés et qui sont protégés ou non au titre des monuments historiques.
D'accord, donc on peut effectivement aussi s'attarder sur des œuvres ou des monuments qui ne sont pas encore protégés, et donc vous auriez la possibilité de les faire se protéger, ou qu'est-ce qui se passe, à quel moment ça c'est réellement saisi?
Alors, en effet, ça fait partie des possibilités de demander aux instances qui sont chargées de ça d'étudier un dossier de classement. Ça s'est produit notamment au début des années 2000, au moment où des travaux ont commencé à être entrepris sur ce qu'on appelait à l'époque la maison Chambron, qui s'appelle maintenant les chanoineries, où en effet j'ai participé à l'étude et au lancement du classement, enfin de l'inscription au titre des monuments historiques, d'une maison qui se situe à mi-chemin entre la place du Marché et la place du Mazel.
Donc voilà, ça nous permet de resituer un petit peu le travail du conservateur, conservateur du musée de Die, et on a oublié de le préciser, effectivement, le musée, comme tous les monuments cités à peu de choses près, sont des bâtiments municipaux.
Tout à fait.
Et donc vous dépendez, vous êtes un employé de la mairie.
Je suis un employé de la mairie, et c'est vrai que la mairie fait un gros effort sur son patrimoine, d'abord par le biais de mon salaire. Je ne gagne pas des sommes faramineuses, mais ça coûte quand même quelques sous. Et puis aussi sur l'entretien, la conservation de l'ensemble de ces monuments, des collections du musée et l'ouverture du musée tous les ans pour que le public puisse en profiter au maximum.
Parlons maintenant de la cathédrale. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est un édifice imposant. Est-ce que c'est le plus imposant édifice que la commune a à entretenir? C'est une question comme ça qui me vient, et si on ne peut pas y répondre, tant pis. Et puis, précisons un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a une cathédrale à Die.
Alors, en question de taille et de dimension, la cathédrale est sans doute le monument le plus imposant de la ville, ça c'est à peu près clair. Par contre, il ne faut pas oublier le rempart, qui fait quand même 2 km de long, parfois jusqu'à 14 mètres de hauteur, sans compter les tours, qui n'est pas intégralement classé, mais dont la commune s'occupe aussi pour l'ensemble de ce monument, et la porte Saint-Marcel, ce qui fait quand même trois énormes éléments du patrimoine extrêmement importants pour l'histoire de Die et aussi pour son attrait touristique, dont la commune est chargée évidemment de s'occuper et pour lesquels j'essaye d'amener mon aide dans la mesure du possible. Après, la question pourquoi une cathédrale à Die, simplement parce que Die est une ancienne capitale romaine et que la plupart de ces capitales romaines, au moment où l'Empire romain s'effondre, vont se tourner vers une forme de stabilité au moins institutionnelle qui va petit à petit devenir une forme de stabilité politique, c'est-à-dire les évêques. Les évêques qui sont les chefs de la communauté religieuse chrétienne.
Pardonnez-moi, juste avant, oui. Est-ce qu'on peut préciser pourquoi une capitale romaine? Qu'est-ce qu'on entend par une capitale romaine?
Alors simplement, sous l'Empire romain, l'ensemble de l'Empire, c'est-à-dire quelque chose qui couvre tout le pourtour méditerranéen, est divisé en ce qu'on appelle des cités. Alors une cité, ça n'a pas le sens du mot actuel. Une cité, c'est un ensemble qui couvre une capitale et son territoire. On pourrait comparer ça éventuellement à nos départements à l'heure actuelle, sauf qu'une cité peut être plus ou moins grande par rapport à un département. Ces cités sont regroupées comme nos départements au sein des régions. Les cités romaines sont regroupées dans le cadre de territoires qu'on appelle des provinces. Donc la cité de Die fait partie de la province de Narbonnaise, qui est la province la plus au sud de la Gaule, qui a été conquise vers la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Au départ, cette cité est un peu spéciale puisqu'elle a deux capitales, Lucandiwa et Vaison-la-Romaine. Et dans un deuxième temps, sans doute dans le courant du deuxième siècle, c'est Die qui devient la capitale de la portion nord de ce territoire et Vaison devient capitale de la portion sud. Le territoire se divise en deux. Donc pourquoi une capitale romaine ? Simplement parce qu'il devait exister à ces endroits-là des éléments qui intéressaient les populations gauloises et que c'est là que les Gaulois ou les Romains, on ne sait pas trop, ont décidé que la ville principale serait installée.
Donc, on repart sur la cathédrale. À partir de ce moment-là, il y a eu une stabilité, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, et de là sont créés, on va dire, enfin sont institués les évêques et leur rôle.
Alors, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, j'essaie d'être rapide. Pendant toute la durée de l'Empire romain, évidemment, il existe une stabilité politique, ou en tout cas une stabilité administrative, parce que les empereurs ne sont pas toujours très stables. À partir de la fin de l'Empire romain, c'était dans le courant du 5e siècle, cette stabilité disparaît petit à petit. On a les tribus germaniques qui débarquent et qui conquièrent tout l'Occident romain. Et à partir de là, la stabilité administrative de l'Empire disparaît et il faut bien quelque chose pour le remplacer. Il faut quelqu'un pour diriger un petit peu les choses, pour assurer les populations. Et je dirais presque par défaut au départ, c'est l'évêque qui va jouer ce rôle. L'évêque, donc le chef de la communauté religieuse chrétienne, qui va jouer ce rôle. Et petit à petit, l'évêque va acquérir, en plus de ses pouvoirs religieux et de ses pouvoirs d'institution stable, il va évidemment acquérir des pouvoirs politiques. Et à Die, ça va se voir, puisque l'évêque, petit à petit, va devenir aussi le seigneur féodal de la ville, c'est-à-dire le comte de Die.
Et avoir une possession, par exemple, à Juste-la-Crotte, on peut en parler, qui est la petite enclave du coin, c'est rattaché quand même à l'évêché de Die, il me semble.
Alors l'évêché de Die est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire à l'heure actuelle, puisque non seulement cet évêché recouvre évidemment les quatre cantons de l'actuelle communauté de communes, plus le canton de Saillant, mais c'est un évêché qui couvre aussi les cantons de Diolfi, Bourdeaux, Cré-Nord, Cré-Sud, toute la vallée de la Gervanne, le Vercors, et on l'oublie trop souvent, l'évêché de Die couvre aussi le Trièves. Alors je parle là évidemment de limites diocésaines qui datent de bien avant la Révolution et la Révolution française en redécoupant le territoire en départements, justement pour faire oublier ces seigneuries médiévales, va complètement transformer les choses et le Trièves va être rattaché à l'Isère alors que le Diwa, le cœur du Diwa reste rattaché à la Drôme.
Et on peut expliquer pourquoi cette enclave encore quand même à Luce-la-Crotte qui devrait être rattachée au Trièves ou aux Hautes-Alpes?
Alors, Luce-la-Croix-Haute, là, c'est une mesure plus administrative issue de la Révolution. C'est simplement pour que la Drôme puisse avoir un accès direct à cette grande voie de passage qui relie Grenoble à Sisteron. De façon, justement, à ce que la Drôme ne soit pas uniquement axée sur la vallée du Rhône, mais qu'on ait cette ouverture sur cette grande voie nord-sud. Et de façon aussi à ce que la vallée de la Drôme, qui permet d'accéder à cette grande voie nord-sud de l'autre côté des cols, puisse garder son rôle de communication pour les marchandises, pour les personnes, etc., sans souffrir d'une coupure administrative, d'autant que cette coupure administrative pour le sud du col de Luce-la-Croix-Haute est renforcée par une coupure régionale. On ne change pas seulement de département, on change aussi de région. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on franchit les cols pour mener à Luce et surtout qu'on redescend de l'autre côté, en tout cas administrativement, on a l'impression d'être dans un autre pays. Puisque toutes les instances sont différentes.
Alors revenons un petit peu sur la cathédrale. Il était dit, ou du moins il est peut-être connu dans l'imaginaire des gens, que souvent les cathédrales ont un rapport aussi avec la densité de population. Par exemple, on a une cathédrale à Valence, on n'en a pas à Cré. Et il y en a une à Die. Alors là, on vient de resituer que c'était aussi lié à l'histoire et donc aux capitales romaines. Mais est-ce aussi une volonté à un moment donné de placer un diocèse fort ici, puisqu'on sait aussi qu'historiquement le Diwa était quand même assez hérétique, notamment dans le Haut Diwa?
Alors là, il faut essayer de. Enfin, pour mieux comprendre les choses, il faut essayer de remettre tout ça dans un contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque où le diocèse est créé à Die, c'est-à-dire le premier évêque connu, c'est 325 après Jésus-Christ, donc à l'époque de Constantin. À cette époque-là, la ville de Cré n'existe pas. Cré, on n'est même pas sûr qu'il y ait un petit bourg ou quelques maisons. La ville la plus proche, enfin le village le plus proche, c'est Oust, qui existe déjà à cette époque-là. Donc de toute façon, la rivalité entre Cré et Di en termes de population, d'importance politique, etc., qui existe maintenant dans les consciences ou dans les mentalités, n'existe pas du tout à cette époque, puisque Cré n'existe pas.
Ah ouais, très bien.
L'importance de Cré, c'est une importance médiévale. C'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, il va y avoir tout un désordre qui va se mettre en place entre les évêques comtes de Die d'un côté, les évêques comtes de Valence de l'autre, qui sont plutôt alliés dans cette guéguerre, et puis un autre comte, qui lui est un comte civil, la famille des Poitiers. Alors Poitiers du Poitou ou pas, ça on sait pas, c'est peut-être une branche cadette. En tout cas, ces comtes civils veulent asseoir leur possession sur le Valentinois et le Diois. Ils s'appellent d'ailleurs comte de Diois et Valentinois. Et donc il va se mettre en place une guerre larvée entre les comtes de Die d'un côté et de Valence, et puis les comtes de Diois et de Valentinois. Et c'est à ce moment-là que les comtes civils vont essayer de bloquer toute la vallée de la Drôme, en mettant des châteaux à Cré notamment, mais aussi les tours de Quin, le château de Ponté, de façon à empêcher la communication entre Valence et Die le plus possible, et aussi évidemment être possesseur des péages qu'on fait payer sur la route, un peu comme notre péage d'autoroute, pour faire circuler les gens et les marchandises. Et donc c'est plutôt de ce moment-là que commence à dater cette rivalité entre Cré et Die, parce que Cré prend de l'importance entre la vallée du Rhône et le chef-lieu du diocèse, donc Die, qui est une ville extrêmement importante à cette époque-là. Et plutôt comme verrou sur la vallée. Enfin, il existe des moments pendant le Moyen-Âge où l'évêque de Die, quand il veut se rendre dans la vallée du Rhône, est obligé de passer par le col de Barsac et par Aurel. Il ne peut pas emprunter la vallée de la Drôme qui est fermée pour lui.
Intéressant. Et le rapport entre les religions, les deux religions, on va dire, un peu puissantes qui sont ici dans le Diois, c'est-à-dire la religion catholique et la religion protestante, où là, quand même, je suis à peine renseigné, mais il semble qu'il y ait des villages qui ont été particulièrement connus pour ne pas payer l'impôt catholique, qu'il y a eu, et que du coup, bon, il y a quand même un certain nombre de chapelles et d'églises qui ont été construites au-delà de la cathédrale, plus haut, pour continuer à véhiculer. Une religion centrale, peut-être, non ? Est-ce qu'on peut faire un petit historique des religions présentes dans le Diois ?
Oui. Alors, sans remonter jusqu'à l'époque romaine, où il y aurait beaucoup à dire aussi sur ces religions, de toute façon, Die est un centre religieux important de l'époque romaine. Ça, c'est un fait. Là, vous parlez plutôt des problématiques entre protestants et catholiques. Donc ça apparaît au début du XVIe siècle. Mmh. Luther affiche ses doléances sur une église en 1517. La religion protestante prend vraiment de l'importance à Die dans les années 1580. Par contre, alors ce qui est assez étonnant peut-être, c'est que le Diois a tendance à passer majoritairement dans le rang des protestants. Alors, pour des raisons qui restent à définir, on ne sait pas trop vraiment pourquoi, peut-être un esprit de résistance, peut-être d'autres raisons. Bon, c'est les Diois, c'est comme ça. Donc on arrive à avoir des villages qui sont entièrement protestants, qui donc du coup en effet ne payent plus l'impôt pour l'église catholique. D'autres villages qui sont à 50-50, enfin bon, les statistiques sont diverses selon les villages. La ville de Die, on suppose qu'à un moment on a jusqu'à 80% de protestants, avec des choses assez amusantes. Les deux monastères principaux de la ville, c'est-à-dire les dominicains et les cordeliers, passe intégralement à la religion protestante, ce qui est un peu bizarre d'imaginer des monastères qui deviennent protestants. Tout ça entraîne évidemment des réactions de la part des catholiques, donc des contre-réactions de la part des protestants. Enfin bon, les choses deviennent très vite compliquées. On est dans un contexte de guerre civile, au niveau politique aussi, il ne faut pas l'oublier, entre les différents partis qui se disputent le pouvoir. Donc, tout ça se termine évidemment par les armes. Et en 1582, le cloître de la cathédrale est détruit, la voûte est effondrée. La cathédrale devient donc totalement impraticable. Pendant un certain temps, les messes vont se faire dans le porche de la cathédrale, donc un espace extrêmement réduit, mais il y a très peu de catholiques à l'époque, donc ça correspond à peu près aux contraintes. Et puis, bon, les choses vont petit à petit évoluer entre l'édit de tolérance d'Henri IV, le retour sur cet édit par Louis XIV. On a des périodes d'accalmie, des périodes où de nouveau ça repart par les armes, jusqu'au moment où Louis XV, d'une certaine façon, Louis XVI ensuite et la Révolution vont calmer le jeu, surtout la Révolution qui justement donne une sorte de droit religieux à l'ensemble de ces religions et permet aux choses de se calmer de ce point de vue-là.
Alors, si on repart encore un tout petit peu en arrière, on n'arrête pas de faire des bonds comme ça. Si on repart donc à partir de la période romaine et où la cathédrale, enfin l'édifice et l'importance de cet édifice est établi à Die, et donc peut-être qu'il est érigé, peut-être pas dans sa forme actuelle, mais c'est bien la religion catholique qui avait, qui était la première, enfin celle qui avait l'importance.
Alors tout à fait.
À quel moment d'autres religions, est-ce que les Vaucons, par exemple aussi, qu'on pourrait citer un petit peu sur Luc, ont eu ces influences-là, une influence ?
Alors je le disais, les Vaucons et le centre de Die, c'est un centre religieux important pour les Vaucons, mais sans doute au-delà des Vaucons. Alors déjà, on connaît le culte d'Andarta, qui est une déesse locale, qui a un grand retentissement sans doute vers la fin du 1er siècle et dans le courant du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce culte est peu à peu remplacé par un autre culte tout aussi important, puisqu'en plus c'est un culte public, impérial, qui est le culte de Cybèle. Alors Cybèle, c'est une déesse originaire d'Anatolie, donc en Turquie actuelle. Ce culte prend énormément d'importance puisque, à l'heure actuelle, en Narbonnaise, au nombre de témoignages de ce culte, Die semble être le centre le plus important. Jusqu'à ce que de nouvelles découvertes viennent affirmer le contraire, parce que là, il faut se méfier. Mais pour l'instant, ce qui en est connu, Die est le centre du culte de Cybèle le plus important pour la Narbonnaise. Ça, c'est pour l'époque romaine. Et ensuite, le christianisme fait une arrivée assez discrète au départ, hein, dans l'Empire romain. Bon, on en connaît les premières traces un peu évidentes en 177 avec le martyr de Blandine à Lyon. Dans les grandes étapes de l'arrivée du christianisme, on peut citer la mission évangélique qui est lancée à partir d'Arles dans les années 245-250 et qui conduit petit à petit les grandes cités romaines du sud de la France à, je dirais pas à se christianiser parce que les choses vont vraiment lentement, mais à se doter déjà d'assemblées religieuses. Vers la fin du 3e siècle et dans le courant du 4e. Donc comme je le disais, le premier évêque connu à Die, c'est 325. Alors cet évêque est extrêmement important et on se l'explique mal, puisque c'est le seul représentant des Gaules, donc pour l'ensemble de l'actuelle France et du nord de l'Italie, qui est représenté au concile de Nicée en 325. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le connaît, cet évêque. Ce concile de Nicée est extrêmement important pour l'histoire religieuse, puisque c'est lors de ce concile, à la demande de Constantin, qu'on met en place le credo. Le credo qui est commun aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes, enfin à toutes ces religions chrétiennes initiales ou qui se sont un petit peu écartées de cette religion chrétienne initiale pour des raisons diverses sur lesquelles je n'ai pas à revenir. Mais voilà. Donc Die se retrouve en effet assez souvent au centre de ces grandes religions et ça en fait en tout cas un centre religieux important.
Dans l'histoire de France, Die marque l'histoire des religions, si on comprend bien.
Bah, d'une certaine façon, oui.
Inscrite un peu partout.
Par ce premier évêque, oui, Die prend une importance peut-être exagérée, on se l'explique mal, sur l'histoire de la religion chrétienne, par la présence de cet évêque au concile de Nicée, qui est seul à représenter l'ensemble des Gaules.
Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de chauvinisme ? Die était une ville très importante en matière de population. Que pouvait-on trouver d'un point de vue architectural ?
Alors, en termes de population, c'est toujours très très difficile de faire une estimation. En termes architecturaux, Die a de toute façon une grande importance, c'est un territoire important. Les Vaucons, c'est le deuxième plus grand territoire de Narbonnaise après les Allobroges. Les Allobroges, c'est le peuple qui est juste au nord, entre Vienne et Genève. Die, c'est un petit peu plus au sud. Donc un territoire extrêmement important. Apparemment, un peuple qui a lui-même une grande importance, puisqu'il a droit à un traité d'amitié direct signé avec Rome. Ce qui est là aussi un traitement, alors je ne sais pas si c'est un traitement de faveur, mais c'est un traitement très particulier.
Sous-entend quoi ce traité ?
Alors, on a un peu de mal à l'expliquer, c'est toujours pareil. On n'a pas le texte de ce traité d'amitié, donc on n'a pas le contenu. Simplement, une des hypothèses, c'est de dire que les Vaucons et Die étant sur un des débouchés des Alpes vers la vallée du Rhône, il était important de pacifier cette voie de passage le plus tôt et le mieux possible. Et dans ce cas-là, on va réserver un traitement très particulier aux gens qui contrôlent ce passage. Puisque les Vaucons contrôlent à la fois la vallée de la Durance, qui permet d'aller vers le sud en débarquant des Alpes, et la vallée de la Drôme, qui permet donc d'aller vers l'ouest. Donc c'est un passage extrêmement important, sachant que c'est le mont Genèvre qui est le col le plus utilisé pour franchir les Alpes.
Pardon, hein, oui. Petite erreur technique. Oui, alors reprenons. J'abordais ces questions architecturales, puisque oui. Liées à la cathédrale, est liée aussi l'historique de la place qui est devant elle, que les gens ont pu voir éventrer il n'y a pas très très longtemps. La cathédrale est érigée à quelle période et que trouve-t-on sur cette place à ce moment-là ?
Alors, ce qu'on trouve sur la place, on y reviendra peut-être plus tard, mais pour ce qui est de la cathédrale, on sait qu'il y en a une dès le 5e siècle, ce qui est relativement tôt, enfin cathédrale, on sait qu'il y a une église dans le centre-ville de Die dès le 5e siècle, ce qui est relativement tôt, surtout dans la mesure où la plupart du temps, les cathédrales sont les héritières d'églises funéraires qui se trouvent généralement à l'extérieur de la ville, puisque les morts sont toujours relégués à l'époque romaine à l'extérieur de la ville. Donc, première église à Die dans le courant du 4e siècle, du 5e siècle, pardon, on construit certainement un baptistère à côté de cette première église dans le courant de, enfin, vers la fin du 5e siècle ou plus tard au début du 6e. Bon, là, c'est un petit peu moins tôt que ce qu'on retrouve dans le sud de la Provence, mais ça marque quand même à la fois une communauté chrétienne qui est extrêmement vivante, et ça marque aussi une volonté de marquer dans le dur la prégnance de cette communauté chrétienne. Ensuite, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, l'édifice perdure certainement un certain temps. On sait qu'il y a un remaniement probable à l'époque carolingienne, donc 8e, 10e siècle, simplement parce qu'on a retrouvé des éléments de décor de cette église carolingienne. Et l'église telle qu'on la voit actuelle, les éléments les plus anciens datent du 11e, 12e et 13e siècle. Cette nouvelle cathédrale, qui est reconstruite donc, est consacrée en 1250. Et c'est cet édifice-là qui a laissé qui est presque l'édifice qu'on voit à l'heure actuelle. Ensuite, il y a d'autres évolutions. J'ai dit que la voûte avait été cassée dans les années 1580. Elle est reconstruite à la fin du XVIIe siècle. Et pour finir l'évolution de la cathédrale en elle-même, le sommet du clocher, qui avait été commencé en 1474-78, par là, est terminé en 1933. Ça a pris un petit peu de temps, avec une souscription d'ailleurs publique pour financer ces travaux. Donc le clocher tel qu'on le voit à l'heure actuelle ne date que du XXe siècle.
Juste avant la Deuxième Guerre.
Juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et heureusement d'ailleurs, parce que si le dossier avait pris du retard avec la Deuxième Guerre, il n'aurait jamais été terminé.
Et elle n'a pas été touchée par la guerre.
Non.
Bon.
Non, non.
Et a-t-elle été démontée? A-t-elle été est-ce qu'on a récupéré ses pierres à un moment donné? A-t-elle subi quelque chose de la Révolution?
La Révolution, à ma connaissance, n'a que très peu touché à l'édifice. En revanche, il y a une tradition, une légende tenace qui traîne, comme quoi je crois que c'est la tour gouvernée, donc un seigneur protestant aurait pris les pierres de la cathédrale pour construire le château d'Aix. Bon. À l'heure actuelle, cette tradition ne se vérifie pas sur le terrain. À peut-être quelques exceptions près, on sait que les fenêtres de la façade nord de la cathédrale, donc la façade qui donne sur la place de la République actuelle, ces fenêtres ont été refaites au XVIIe siècle quand on a reconstruit la voûte. Elles sont presque neuves. Et si elles ont été refaites, c'est simplement parce que les pierres, les montants de ces fenêtres ont été récupérés. Alors, est-ce que c'est la tour gouvernée pour le château d'Aix? Est-ce que c'est les habitants de Die eux-mêmes qui se sont servis? C'est plus probable, puisqu'on connaît quelques maisons, notamment Place du Marché, qui ont manifestement été construites avec des pierres de la cathédrale.
Des belles pierres de taille, donc.
Belles pierres de taille en calcaire très blanc, elles se remarquent tout de suite, oui.
Alors, on a commencé à parler un petit peu des matériaux, justement. Alors, je pense que tous les gens regardant la cathédrale voient clairement deux parties. Une partie qui est qui soutient le clocher dont on vient de parler, hein, qui est en pierre de taille propre. Et puis, une partie qui est plus en pierre recouverte de choses, qui est ce qui se fait beaucoup par ici. Alors, c'est du galet du coin. C'est quel type d'architecture?
Alors, c'est du galet du coin, en effet, du galet probablement de la Drôme. Simplement, ce qu'on voit là, enfin, la différence entre ces parties en pierre blanche, c'est-à-dire le porche, en effet, le clocher porche, qui est en belle pierre blanche, la façade sud, donc la façade qui donne sur la rue Notre-Dame, qui est aussi avec ce calcaire blanc. Ça, ce sont des parties médiévales qui sont restées en place, donc qui datent d'avant l'inauguration de 1250. En revanche, je vous disais, La voûte est tombée, on a récupéré des pierres, et donc toute la façade nord et le chœur, eux, sont reconstruits dans les années 1671, 1673 à peu près. Et donc c'est ces parties-là qui sont refaites en galets de la Drôme, parce que À ce moment-là, je ne sais pas si on n'avait pas le temps ou pas les moyens, mais en tout cas, on n'a pas employé le calcaire blanc local pour refaire ces parties.
Et puis, il y a moins à tailler. Ça ressemble, d'ailleurs, cette partie ressemble plus au rempart, puisqu'on l'a cité un petit peu aussi, à la manière dont le rempart a été fabriqué.
Alors, le rempart a été fabriqué à l'époque romaine. Il en reste très peu de vestiges directement romains avec le parement de l'époque, donc l'épiderme du mur. Mais les parties purement romaines sont en ce qu'on appelle du petit appareil. C'est des petits moellons de 10 cm de haut par 15 à 35 cm de large. Donc, ça, on le repère très bien quand on en voit. Et tout le reste du rempart, soit c'est le cœur de la maçonnerie romaine qui est visible, qui donne cet aspect de ruine, soit on a affaire à des reconstructions médiévales ou d'époque moderne, donc d'époque des guerres de religion, ce qui fait qu'en effet, le mur de la cathédrale et ses parties reconstruites du rempart ont exactement le même aspect, puisque c'est les mêmes bâtisseurs et les mêmes pierres.
Alors, on a parlé tout à l'heure d'une souscription qui avait permis de terminer ce clocher en 1933. Mmh. Aujourd'hui, il est question d'une nouvelle souscription. Quel est son but et qu'est-on en train de faire sur cette cathédrale?
Alors, les travaux sur la cathédrale, c'est assez simple. On refait la toiture. Donc, on refait intégralement la couverture en tuiles et on reprend évidemment tous les éléments de charpente qui en ont besoin, puisqu'il y a eu des fuites dans cette toiture. Donc, l'eau a coulé sur les bois. C'est principalement du peuplier. Enfin, en tout cas, les éléments en peuplier n'aiment pas du tout l'eau. Donc, il y a un certain nombre d'éléments de charpente qui ont souffert de ces fuites d'eau. Donc, on les remplace au fur et à mesure. Alors, on essaye d'avoir la meilleure étude possible de cette charpente pour essayer d'avoir le moins de surprises possible lors de la réparation. Simplement, bon, il y a un petit peu plus d'éléments de boiserie à changer, puisque certains avaient été repris en 1978. À cette occasion, on avait mis en place ce qu'on appelle des moises, c'est-à-dire qu'une poutre est flanquée des deux côtés par deux poutres plus petites pour la consolider. Et à ces endroits-là, il n'était pas possible de constater l'état réel de la poutre initiale. Et donc là, on a eu quelques mauvaises surprises. Il y a cinq éléments en plus qui ont dû être changés.
Quelques moises qui ont moisi, pardonnez-moi.
Non, les moises ont tenu, justement. Ouais, bon. C'est entre les moises que ça a moisi. Donc on refait les éléments de charpente qui en ont besoin, on refait la couverture. Avec une technique qui est assez au point, donc bon... Je passe sur les détails, il y a plusieurs étages avec en plus une protection en fibre, de façon à ce que même s'il y a quelques fuites sous les tuiles, l'eau n'arrive pas jusqu'aux maçonneries et jusqu'à la charpente. Donc c'est un gros travail qui prend beaucoup de temps, notamment parce qu'on est obligé de tenir compte des périodes de nidification des chauves-souris, puisqu'il y a une espèce protégée de chauves-souris, le grand murin, qui habite l'été dans la cathédrale, qui vient y faire ses petits. Et comme c'est une espèce protégée, il faut en prendre soin. Donc il nous est interdit d'intervenir sur la toiture pendant la période de nidification. C'est pourquoi les travaux se mettent en place sur 3 ans consécutifs et qu'on procède par tranches.
Principalement l'hiver.
Voilà, principalement l'hiver, ce qui est la plus mauvaise période pour faire une toiture, parce que c'est là en général qu'il pleut le plus. Alors cet hiver, on a eu du bol, il a très peu plu. Pour l'agriculture, c'est moyen, mais pour la cathédrale, c'est ce qu'il y avait de mieux. Bon, il a fait froid, par contre, ça n'a pas été simple pour les gens qui ont travaillé là-haut. Donc, on a refait, là, pour l'instant, la moitié de la toiture de la cathédrale, qui est toute neuve et qui est assez réussie. Moi, je trouve ça magnifique. Pendant l'été, on va intervenir sur des parties où il n'y a pas de chauve-souris, donc le chœur et la sacristie. Et ensuite, l'automne prochain, on reprendra les travaux sur la partie principale, donc sur la nef, pour finir le travail. Travail qui sera terminé en mars de l'année prochaine.
Et alors, ce sont ces petits travaux supplémentaires, non prévus, non évalués au départ, qui nécessitent aujourd'hui une souscription?
Non, la souscription a été prévue dès le départ. C'est simplement parce que c'est un bâtiment, c'est un édifice public. C'est un édifice qui a une longue histoire, qui est emblématique du Diwa. Et c'est un édifice qui, je dirais, n'est pas à la taille de la commune actuelle. C'est-à-dire que, là encore, c'est l'édifice d'un diocèse, donc de tout un territoire, et qui est à l'heure actuelle une propriété municipale. On reviendra, je crois, sur les raisons de cette propriété, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et donc c'est à la commune de Die de prendre en charge ces travaux. Alors on a droit à une aide de l'État, une aide qui est d'ailleurs assez importante, puisqu'on a droit à un pourcentage plus élevé que d'habitude. Mais c'est quand même une grosse charge pour la commune. Et c'est pour ça que la commune demande l'aide des habitants de Die, mais même des habitants de l'ensemble du Diois, pour aider à la mise hors péril de cette cathédrale. Parce qu'il faut savoir que ces fuites d'eau devenaient un vrai problème. Il y a eu de gros travaux de restauration qui ont été entrepris dans les années 90 dans la cathédrale, et que ces fuites d'eau finissaient par menacer ces travaux de restauration et finissaient par abîmer l'édifice. Donc de toute façon, ces travaux, il fallait les faire. Simplement, c'est un budget qui est quand même assez conséquent. Et c'est pour ça que la commune de Die a estimé avoir besoin de l'aide de toutes les bonnes volontés qui veulent maintenir ce patrimoine en état.
Peut-on terminer avec une brève présentation de la place sur laquelle on se trouve, de son évolution aussi un petit peu, et maintenant qu'on a bien compris que la cathédrale avait quasiment toujours été là et en vue, par contre la place, elle, a beaucoup changé, et on a parlé de ses fouilles tout à l'heure, de ce qu'on y trouvait dedans, et ça va reprendre d'ailleurs.
Ça va reprendre, oui, puisque dans le cadre de l'aménagement des places, on a l'obligation de faire des recherches archéologiques. Donc je crois que tout le monde a remarqué qu'il y avait quelques fenêtres qui avaient été ouvertes, enfin nous on appelle ça des fenêtres ou des sondages, qui avaient été ouvertes dans la place en mars-avril de l'année dernière, qui ont donné pas mal de résultats, donc on en sait un petit peu plus sur l'évolution de cette place. Ce qu'on savait de toute façon, c'est que dès le Moyen-Âge, c'est-à-dire certainement dès le XIIIe siècle, il y a un cloître qui est accolé au nord de la cathédrale, donc en fait sur quasiment l'ensemble de la place de la République actuelle, c'est-à-dire que cette place n'existait pas à l'époque médiévale. Le parvis de la cathédrale, c'était uniquement ce qu'on appelle la place de l'horloge, c'est-à-dire l'emplacement où nous sommes là à l'heure actuelle avec la caravane. Et puis le marché se faisait sur la place qui porte ce nom-là, c'est la place du marché, donc un petit peu plus loin vers l'ouest. Cette place donc n'existait pas à l'époque médiévale. Ce cloître est un cloître très particulier, c'est un cloître de chanoines. Alors les chanoines, initialement, sont des gens qui... c'est un peu le cœur... le chœur, la chorale de la cathédrale, et petit à petit cette chorale, enfin les gens qui constituent cette chorale, là c'est assez ancien, prennent des responsabilités, s'occupent de l'administration de la cathédrale, obtiennent des donations en nature, c'est-à-dire des bâtiments, des terres ou en numéraire, et finissent par gérer, peut-être pas de véritable fortune, mais quand même beaucoup d'argent pour rendre des services à la fois à la communauté des habitants, mais aussi dans le cadre religieux. Donc ces chanoines ont un cloître, c'est-à-dire c'est pas là qu'ils habitent, ce sont des laïcs, mais c'est là qu'ils se réunissent, qu'ils ont leur conseil d'administration, on va dire, le chapitre. Et ce cloître a occupé cette place jusqu'au moment où les protestants en ont décidé autrement, donc c'est à ce moment-là que le cloître est démoli. Il reste quelques bâtiments épars de ce cloître, notamment la grande sacristie, qu'on a retrouvée d'ailleurs en partie dans les fouilles. Et à partir du moment où les protestants démolissent le cloître... La deuxième fonction de cet espace va devenir la première, c'est-à-dire que ce cloître abritait aussi un cimetière, et c'est ce cimetière qui va perdurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc les morts de Die sont enterrés principalement à côté de la cathédrale. Et là, dans les fouilles, on a en effet retrouvé énormément de tombes de différentes époques. Et puis à la fin du XVIIIe, on décide d'arrêter d'enterrer les morts à cet emplacement. C'est à ce moment-là d'ailleurs que le cimetière Saint-Pierre, c'est-à-dire le vieux cimetière actuel, prend de l'importance. Et on décide de transformer cet espace en ce qu'on appelle une promenade. Donc une promenade, on va y planter des arbres en 1880, les platanes actuels, qui datent donc de 1880. Ils sont assez vénérables, ils ont assez bien tenu le choc, mais ils sont quand même très vieux. Et je ne sais pas combien ils dureront encore, peut-être quelques dizaines d'années, mais c'est même pas sûr. Et donc cette promenade va être ensuite appelée Place de la République. Alors, j'ai plus la date en tête là tout de suite, mais c'est probablement au moment du centenaire de la Révolution française. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va mettre en place la statue de la République sur un énorme socle piédestal qui a disparu depuis, puisque là, il ne reste que la partie supérieure de la statue. C'est aussi cette place qui va accueillir ensuite une colonne à l'empereur Napoléon III, une colonne monumentale. Colonne qui va être démontée à la fin du Deuxième Empire, donc dans les années 1880. Et pour être sûr qu'on ne refera pas de colonne à un empereur quelconque, les colonnes sont brisées et sont utilisées pour fabriquer les fondations de l'école de filles de l'époque, qui est l'actuelle mairie. Et je suis repassé hier dans les caves de l'actuelle mairie, on voit bien ces éléments de la colonne Napoléon qui sont brisés et remployés dans les fondations. C'est assez amusant. Et puis cette place a aussi accueilli une fontaine monumentale qui a été démontée dans les années 60. avant de devenir l'espace qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire surtout un parking ombragé, ce qui est quand même très agréable, et puis qui prend toute son animation les mercredis et les samedis pour le marché, ce qui est aussi très agréable.
On fait donc un marché sur les morts, sur la promenade, sur la République, sur l'Empire. Merci Jacques pour ces présentations. Jacques Planchon, conservateur du musée de Die.
Vous en prie.
On a Quentin qui se trouve sur le marché et qui cherche à questionner un peu la population, les gens qui sont là, si éventuellement ils auraient une anecdote sur la cathédrale. Donc Quentin, est-ce que tu m'entends ?
On se teste, hein. On est en train de faire des
Merci choses. De me donner cette antenne, mon cher Toff et mon cher Baptiste. Alors, je suis actuellement sur la place du restaurant, d'un tout nouveau restaurant snack.
Ça coupe beaucoup, alors on s'excuse, on va reprendre.
Bien, je vous remercie de prendre ce temps avec moi pour répondre à cette petite question qui est toute simple. Est-ce que vous avez effectivement une petite anecdote sur cette place de la cathédrale ?
Vous avez le marché tous les mercredis, tous les samedis, c'est super sympa, super cool. Quand on arrive en saison, vous avez tous les vendredis de Die qui sont organisés par l'Office du tourisme, où il y a énormément de monde. Les gens exposent dans les rues, les musiciens, c'est très, très, très agréable.
Eh bien, merci beaucoup, c'est très, très bonne intervention, merci, je vous remercie.
Donc, merci Quentin, bon bah, c'était le test du micro à chef, on a un peu entendu un témoignage.
Mobile Studio, Diwa Radio.